Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Vous savez bien que nombre de gens ne se reconnaissent plus dans la France et préfèrent s'enfuir au loin pour pouvoir y tenter leur chance. Votre république d'exclusion est une honte pour la nation, tout comme celle d'intégration qui va céder sous la pression. Vous n'avez point les armes qu'il faut pour pouvoir taire une conviction, ouvrant les vannes d'une folie que vous ne pourrez point contrôler. L'identité de tout un peuple ne peut s'écrire sur ce papier. Même plastifié, les droits de l'homme ne pourront plus être protégés. Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Madame la République française, qui répondra de ses doléances? Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France.
Canal Sud 92.2, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va s'amuser un peu avec un sujet récurrent, bien sûr, mais qui est présenté d'une façon parfois humoristique, malgré sa gravité. Avant de quitter cette planète sinistrée qu'il n'avait jamais cessé de défendre contre la folie productiviste des challengers du PIB, Albert Jacquard disait « Si l'on veut faire preuve de sagesse envers les prochaines générations, il faut sortir de l'atome, et le plus vite possible, pour garder le sentiment du drame en train de se créer. Il faut réfuter les raisonnements économiques. Il faut sortir du nucléaire. » Le risque nucléaire est un risque pour l'humanité tout entière. Et comme tout habitant de la planète, nous sommes bientôt 8 milliards de copropriétaires à égalité. L'univers de chacun, c'est la planète Terre. Nous assistons et participons à la préparation systématique du suicide de l'humanité. Environ 25 000 armes nucléaires actuellement dans le monde sont susceptibles d'exploser à tout moment. Qu'une seule personne ait envie d'appuyer sur le bouton et tout disparaîtra dans l'instant. Einstein disait « Il y a des choses qu'il vaudrait mieux ne pas faire ». Et le jeu cynique de Poutine nous rappelle que sans actionner aucune bombe nucléaire militaire, il est tout à fait possible de déclencher de super Tchernobyl ou Fukushima à la puissance enrichie par les performances technologiques récentes qui font de Zaporijjia la plus puissante centrale nucléaire d'Europe. Catastrophe de plus en plus logique dans l'environnement de destruction systématique qui rend déjà la survie en Ukraine chaque jour plus dramatique. Le suicide de l'humanité est préparé, il existe. Et notre pays a contribué à mettre en place des bombes nucléaires, militaires ou soi-disant civiles comme le sont toutes les centrales. Alors que l'on essaie de se protéger contre les catastrophes naturelles, le plus efficace ne serait-il pas, pour les catastrophes humaines, d'en supprimer les causes ? L'accident de Fukushima est arrivé dans un pays technologiquement développé, contredisant toutes les statistiques d'alors. Et ceux qui chantaient leur foi dans le nucléaire se trouvent aujourd'hui contraints d'envisager le développement des énergies renouvelables, qui semblaient des rêves de doux dingues il y a seulement 20 ans. Mais Total, qui fait semblant de se verdir en investissant dans l'éolien et le solaire, continue de forer pour le pétrole et le gaz. Capitalisme avant tout ! Et l'électricité française resterait la plus chère d'Europe, comme on vient de s'en apercevoir en rachetant des kilowatts en Allemagne et en Espagne, championne des énergies renouvelables. L'électricité française serait la plus chère d'Europe, donc, sans les subventions gouvernementales qui faussent toute comparaison. C'est pourquoi il n'est peut-être pas inutile de remettre notre ouvrage renouvelable sur le métier anti-nucléaire, en rêvant de contribuer par l'information aux prises de décisions politiques qui s'imposent pour changer d'investissement. Ainsi, le mouvement Utopia propose de faire le tour de 12 idées reçues sur le nucléaire qui seront notre propos d'aujourd'hui. Je ne sais pas si on arrivera à traiter les 12 idées reçues, mais on pourra y revenir. Nous y reviendrons. Idée reçue numéro 1. Le nucléaire civil est une technologie au risque maîtrisé. Voyons voir. Il y a une dizaine d'années, André-Claude Lacoste, président de l'ASN, l'autorité de sûreté nucléaire, comme on n'arrête pas de vous le dire, André Lacoste, donc, déclarait « Je l'ai toujours dit, personne ne peut garantir qu'il n'y aura jamais un accident grave en France. » Président de l'ASN. En fait, la question n'est plus de savoir si une nouvelle catastrophe peut ou non se produire, mais plutôt où et quand elle se produira. Surtout que, comme la carte de France présentée à l'expo de la Garonne le montre, des accidents graves en France, il y en a déjà eu. Les pires étant ceux de Saint-Laurent-des-Eaux, en 1969 et en 1980. Rien que la fonte des cœurs de réacteurs. Ce qui a justifié l'arrêt et la fermeture des réacteurs en question et leur laborieux démantèlement depuis. Il y a aussi le Blayais, en 1999. Dont vous n'avez jamais entendu parler, sauf sur Canal Sud, bien sûr, La Dépêche et les autres médias ayant d'autres faits divers à célébrer. Et l'énergie nucléaire est la seule énergie qui nécessite un classement du risque assimilable aux tremblements de terre, sur l'échelle internationale INES à 7 niveaux, créée après Tchernobyl, d'après le modèle de l'échelle de Richter. Sur le plan du droit, un accident nucléaire se caractérise par le nom de catastrophe et sa réparation s'apparente davantage à celle des dommages de guerre, codonnée classique de la responsabilité civile, ce qui a l'énorme avantage de limiter la responsabilité de l'État et de l'EDF. Aucune compagnie d'assurance n'a pris le risque d'assurer les centrales nucléaires, ce qui est un signe révélateur. Le nombre de victimes du nucléaire est très difficile à chiffrer. Contrairement à un accident ordinaire, ces victimes s'estiment avec le temps et dans l'espace. On doit tenir compte des multiples effets secondaires, comme bien sûr les cancers. C'est pourquoi le nombre de victimes de Tchernobyl va de 50 pour l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie nucléaire, de 50 pour l'AIEA à 985 000 pour la New York Academy of Science. Et il faudra attendre très longtemps avant de connaître le nombre de victimes de Fukushima, si on le connaît un jour. Avec le nucléaire, on franchit un seuil où la technique et les conséquences nous échappent, car on ne peut pas arrêter la radioactivité. Contrairement aux autres technologies qui produisent aussi de l'énergie, la gestion du nucléaire implique aussi une gestion permanente du risque permanent, c'est-à-dire qu'on ne sait jamais où on va. La chute d'une éolienne ou une explosion dans une centrale thermique à charbon ou la fusion d'un cœur de centrale nucléaire, c'est pas du tout la même chose. Les conséquences ne sont pas les mêmes. Avec le nucléaire, les accidents sont possibles tout au long du cycle complexe constituant la chaîne d'exploitation. Ils dépendent soit de la faiblesse et de la technologie, panne, défaut de conception, usure, etc., soit des erreurs humaines d'utilisation, défaut de surveillance, de qualification, quand on pense que tant d'ouvriers du nucléaire sont des sous-traitants intérimaires souvent, et que l'on change de site quasiment à chaque mission, de façon à ce que la responsabilité d'une irradiation ne soit pas portée par l'usine où elle s'est produite. Mais il y a aussi des facteurs extérieurs qui peuvent impacter le fonctionnement de la centrale. Incendies, sécheresses, inondations, séismes, on a vu Fukushima avec son tsunami, attentats, etc. Le nucléaire détruit également le territoire. Si l'on applique la carte des zones irradiées de Tchernobyl sur un fond de carte de France, ce serait près d'un quart du territoire qui serait inhabitable pour plusieurs générations. Plus d'une dizaine de millions de personnes déplacées, ruinées gravement et exposées à des risques sanitaires majeurs. Ce type de destruction ne s'est jamais produit encore dans l'histoire connue de l'humanité. Selon la météo, une catastrophe à Nogent-sur-Seine ou sur les bords de la Loire provoquerait l'évacuation de toute la région parisienne. L'approvisionnement en eau potable serait interrompu pour longtemps. Les deux tiers des cultures céréalières de la France impropres à la consommation. Une telle migration de 10 millions d'habitants, leurs habitations quittées, leurs emplois perdus et l'équipement collectif de tels territoires à reconstruire ailleurs, poserait un problème de vie insoluble au pays entier, pas seulement à la zone sinistrée. Une multitude d'incidents et plusieurs accidents se sont ainsi succédés durant la courte histoire du nucléaire civil. Leur variété démontre le potentiel risque de cette source d'énergie, Chaque incident étant susceptible de dégénérer en accident majeur, faute d'intervention ou d'équipement adapté. Vous êtes toujours sur 92.2, Contre Histoire, à Radio Canal Sud. La probabilité des risques augmente avec le vieillissement des centrales. Et toutes nos centrales sont vieilles. Le dérèglement climatique, sécheresse, augmentation des risques naturels. En France, l'eau captée pour refroidir nos centrales nucléaires équivaut, chiffre à peine croyable, à 57% des prélèvements globaux, c'est-à-dire à plus de la moitié de ce que consomment 70 ou 75 millions de citoyens, plus la moitié de l'agriculture nationale, plus tous les prélèvements nécessaires au fonctionnement de nos industries. Bien sûr, cette eau captée pour refroidir les centrales nucléaires est ensuite restituée, mais avec quelques degrés de plus, ce qui impacte gravement l'écosystème aquatique. Que se passerait-il lorsqu'on devra faire face à de graves pénuries d'eau ou à de fortes chaleurs? Je pense que la réponse, on va l'avoir dans pas longtemps. Le nucléaire porte des risques importants, si importants que l'humanité ne peut pas et ne doit pas les prendre, et que persister dans cette voie est irresponsable. La question de l'assurance du risque nucléaire est d'ailleurs révélatrice. Normalement, toute entreprise industrielle est assurée pour les dommages que son activité pourrait causer à autrui. Qu'en serait-il pour le nucléaire? Les conséquences différeraient profondément selon la cause de la catastrophe. Plutôt de type Fukushima, non explosif en cas d'accident, mais plutôt de Tchernobyl en cas d'attentat ou chute d'avion. Un journaliste rappelait récemment: l'inconvénient avec les experts, c'est qu'ils ont moins d'imagination qu'un auteur de manga. Un accident de type Fukushima, bien que celui-ci soit loin d'être achevé, est estimé par la banque Merrill Lynch à 91 milliards d'euros pour le seul coût des dommages qui pourraient être réclamés par les victimes, hors des coûts pour la collectivité. Kazumasa Iwata, président du Japan Center for Economic Research, l'estime, lui, à près de 175 milliards d'euros. 80 000 personnes sont concernées, soit environ 2 millions d'euros par personne. montant qui serait sans doute encore plus élevé par habitant de la Côte d'Azur, de l'Île-de-France, avec ses terres à céréales, de Lyon ou de la vallée du Rhône. Peut-on estimer les conséquences d'une catastrophe d'ampleur Tchernobyl à proximité de zones très peuplées, à Nogent, région parisienne, au Tricastin, Provence et Côte d'Azur? Il faut chiffrer les pertes et indemnisations sur 30 ans, le coût de la reconstruction. Oui, sauf que Tchernobyl, par exemple, il s'est toujours pas reconstruit. En utilisant la carte des impacts autour de Tchernobyl, l'ensemble des dommages va se situer, selon l'endroit, dans une fourchette comprise entre 2000 à 8000 milliards d'euros, alors que la responsabilité de l'exploitant est limitée par la loi française à 91 millions d'euros et demi. Au-delà de cette stricte obligation juridique, l'auto-assurance d'EDF est d'une vue de l'esprit. Ses fonds propres à l'EDF ne représentent au plus que 5% des dommages à couvrir. Et que vaudrait ce capital après une catastrophe majeure? L'État français assureur en dernier ressort. Il a limité ses responsabilités obligatoires par la loi et la Convention de Bruxelles. 210 millions d'euros pour la France et pour la solidarité européenne, 300 millions d'euros. L'État s'estime au-delà de ces 210 millions d'euros irresponsable. Pourrait-il aller au-delà? C'est impossible. Le sinistre représente entre le double et le triple de sa dette actuelle. Et qui prêterait de telles sommes à un État face à un tel problème? De fait, personne ne serait indemnisé au-delà des sommes minimes de secours immédiats. Des millions de gens, outre les graves accidents de santé, devraient faire face à une ruine totale et émigrer pour beaucoup d'entre eux, car la France elle-même n'a pas fait face à de tels déplacements de population depuis des siècles et encore. C'est 10 fois la migration des Français d'Algérie qui s'est opérée sur une métropole parfaitement apte à les recevoir. Rien à voir. Quel serait le coût d'une telle assurance? Le montant estimé par les Suisses d'un dommage pour leur propre centrale est de 4 000 milliards d'euros, ce qui correspondrait à une hypothèse basse pour la France et, dans le cas de Chinon, de Bugey, Nogent ou Tricastin, un montant double serait un minimum. La probabilité annuelle observée d'une catastrophe au plan mondial était une catastrophe tous les 25 ans. La prime annuelle d'assurance hors profit et marge serait donc comprise entre 24 et 48 milliards d'euros. Le chiffre d'affaires du groupe EDF est de l'ordre de 60 milliards. Rapporté au kilowattheure, la prime médiane ressort entre 6 et 12 centimes du kilowattheure. En tout état de cause, il s'agit là d'un exercice virtuel, car aucun consortium d'assurance au monde n'est en mesure de couvrir les risques de ce niveau-là. Et c'est bien pour ça que la responsabilité civile de l'opérateur, comme celle de l'État, est limitée. Pourtant, rouler sans assurance est de la délinquance pour un jeune sur une mobilette, mais pas pour la grande industrie modèle de la France qui, avec le support d'une très large partie de la classe politique, peut s'exempter des devoirs qu'elle exige de ses citoyens et qu'elle réprime sans faiblesse. C'est donc l'ensemble de la population française qui prend ce risque sanitaire et économique de ruine personnelle, le plus souvent insurmontable, et garante d'une grande pauvreté à venir, de maladies graves, longues, douloureuses, voire mortelles, de souffrances affectives devant l'état de ses proches ou de son pays, et enfin d'impuissance probable à surmonter une telle épreuve. Qu'une telle situation apparaisse en temps de guerre fait l'objet d'une réprobation universelle. Et que n'a-t-il été écrit sur les horreurs de la guerre? Pourquoi faudrait-il alors en temps de paix et de prospérité prendre un risque similaire? C'est toujours contre-histoire. Voilà pour la première idée débattue. Le nucléaire civil est une technologie au risque maîtrisé. Et voyons maintenant ce que l'on peut dire de cette autre idée reçue. Le traitement des déchets est maîtrisé. Voyons ça. Vers 1960, on nous disait que le problème des déchets allait être assez rapidement résolu. Un demi-siècle plus tard, le problème reste entier. Méfions-nous de la croyance aveugle en la toute-puissance de la science. Comment trouver un lieu sûr de stockage pour une durée quasi éternelle à l'échelle de l'humanité ? Avant son interdiction en 1993, 8 pays européens ont immergé plus de 150 000 tonnes de déchets radioactifs dans l'Atlantique. Que sont-ils devenus ? En France, la production de déchets radioactifs est de 130 000 tonnes par an. Selon le type de déchets, la durée de la radioactivité peut être de quelques secondes à 480 000 ans. Toujours en France, en 2007, on comptabilisait 1 150 000 mètres cubes de déchets radioactifs répartis sur 1121 sites où le stockage était prévu en surface, en subsurface ou en profondeur par enfouissement. Certains déchets sont aujourd'hui exportés avec un statut usurpé de matériaux encore exploitables. Et on doit les vendre dans cette optique-là, qu'il n'y a pas de petits bénéfices. Enfin, j'en sais rien si on les vend. Mais ça ne m'étonnerait pas. Le documentaire « Le cauchemar du nucléaire » de Laure Noalat et Éric Guéret dénonçait le mensonge d'EDF qui a vainement essayé de faire interdire ce film, disant que 96% des déchets étaient recyclés. Areva aime à se présenter comme une entreprise de recyclage. Il rappelait que près de 13% des matières radioactives produites par notre parc nucléaire dormaient quelque part au fin fond de la Sibérie. Les principales questions posées par le stockage géologique concernent la sécurité, choc sismique, corrosion des conteneurs et surveillance obligatoire jusqu'à la nuit des temps, ainsi que le coût. Pour le seul site de Bure, il est estimé par l'ANDRA, l'organisme chargé de veiller sur les déchets nucléaires, il est estimé à 35 milliards d'euros d'ici 2125. Ce site de Bure comprend la réalisation du stockage, l'exploitation, la clôture et la surveillance du site, et aussi le démantèlement des installations de surface, ainsi que les impôts et taxes sur cette durée. Mais comment peut-on garder la mémoire de ce stockage pendant des centaines de milliers d'années? Construire une pyramide au-dessus d'une mine de stockage avait été sérieusement envisagé. La question que se posent aujourd'hui les ingénieurs de stockage est la suivante. Comment signaler un site pour que la mémoire de la dangerosité du lieu demeure de façon quasi éternelle? On est donc bien loin de l'engagement qui était celui des premiers défenseurs du programme nucléaire, régler rapidement le problème des déchets. On sait maintenant qu'il n'en est rien. Les déchets nucléaires représentent certainement le cadeau empoisonné le plus lourd que nous allons léguer aux générations futures. Une autre idée reçue qui fait florès en ce moment. Le nucléaire permet notre indépendance énergétique. Mais si. Initialement autonome, la France a aujourd'hui exploité ses mines d'uranium jusqu'au dernier filon, laissant un vaste parc de 1200 sites chargés de résidus radioactifs. Aujourd'hui, on importe tout l'uranium nécessaire au nucléaire. Un tiers vient du Niger. L'exploitation de ces mines se réalise à ciel ouvert, dans des conditions inacceptables, mettant directement en danger la vie des ouvriers. L'expérience a montré, malheureusement, que la sécurité des personnels d'Areva et de ses sous-traitants n'était pas non plus garantie. Au Niger, donc, on voit affluer les concurrents de tout pays. Les deux autres tiers d'uranium qu'on importe viennent des USA, du Canada, d'Australie et du Kazakhstan qui a un succès fou en ce moment. En 1977, notre indépendance énergétique, toute énergie confondue, était de 23%, ce qui était déjà pas beaucoup. Et bien maintenant, elle est de 8,9%. Oh, allons, disons 9%, hein. Presque 9%. Entre 9% et 100%, il y a une grosse différence. Hein. On ne peut pas dire que le nucléaire y ait changé quelque chose. Cette dépendance à l'uranium est à rapprocher de la dépendance au pétrole. Comme pour le pétrole, l'uranium est beaucoup plus concentré au niveau géopolitique que le charbon que l'on trouve partout dans le monde. Le risque de conflit lié à son exploitation est par conséquent beaucoup plus important qu'avec d'autres sources d'énergie. Comment, dans ces conditions, peut-on parler sérieusement d'indépendance énergétique? Et pourtant, Sarkozy déclarait, sans rire, le 14 octobre 2010, « La France est un des rares pays dans le monde à être parfaitement indépendant sur le plan énergétique ». C'est ce qu'on va voir, c'est ce qu'on sait déjà. Les ressources de ce minerai étant restreintes, le nucléaire mondial, qui en consomme 63 000 tonnes par an, chiffre datant de 2010, est ainsi condamné à la panne sèche dans un délai variant de 30 à 80 ans au plus, selon les experts et le nombre de réacteurs qui seront construits durant cette période. Comme d'habitude, en spéculant sur de nouvelles techniques aléatoires, les acteurs indiquent des chiffres parfois plus élevés. La durée de vie d'une centrale étant estimée au maximum à 60 ans, faute de combustible, nous vivons donc les dernières années de construction de centrales, loin, loin de la mythique renaissance du nucléaire prévue. Remarquons de surcroît que dans le nucléaire, tout ou presque est importé. Le combustible de base, mais aussi l'acier, nécessaire à la construction des réacteurs. Jusqu'à il y a peu de temps, la licence d'exploitation de la filière PWR de Westinghouse venait des USA. En fait, seuls les renouvelables permettraient cette indépendance énergétique. La foi dans la science fait circuler l'idée numéro 4. Le développement de la technologie permettra de dépasser les problèmes actuels du nucléaire. Je croyais qu'il n'y avait pas de problème. Et pourtant, les ingénieurs du nucléaire d'Areva, pas ceux dont on va parler à Canal Sud, ces ingénieurs confirment qu'il y a peut-être des problèmes quand même. En passant d'une génération à une autre, l'industrie nucléaire cherche à donner l'impression d'une progression technologique permanente qui va permettre à terme de régler tous les problèmes inhérents au nucléaire, sécurité, déchets, combustible. L'EPR, centrale dite de troisième génération, est présentée comme apportant le niveau maximum de sécurité possible, notamment avec un double confinement qui isolerait la centrale aussi bien contre un accident à l'intérieur, fusion du cœur de la centrale, qu'à l'extérieur, crash d'un avion. Or, pourtant, une note confidentielle EDF du 22 février 2003 contredisait cette dernière affirmation. La sécurité meilleure de l'EPR est contestée, donc, par des organismes français et étrangers. Les autorités de sûreté britanniques, françaises et finlandaises, ainsi qu'EDF, ont dès 2009 critiqué sévèrement le contrôle-commande. Certains modes de pilotage pourraient entraîner un accident et l'explosion du réacteur. L'acier employé n'est pas adapté et son emploi a toujours été proscrit sur les parties soumises à la pression du circuit primaire. Tous ces éléments rendent possible une explosion de type Tchernobyl. Des malfaçons béton poreux rendent plus fragile l'enceinte de confinement, celle qui est en cours de traversée sur les réacteurs 1 à 3 de Fukushima par les cœurs en fusion. Ils sont toujours actifs, hein, ils avancent. Ces éléments sont tels qu'au moment où GDF Suez envisageait de participer à la relance du nucléaire en France et ailleurs, le choix de l'EPR avait été annulé au profit du PWR américain. Mais il n'est plus aussi clair que GDF Suez ait toujours des ambitions dans le nucléaire. Bref, les affirmations péremptoires de meilleure sécurité semblent surtout servir à masquer une dangerosité plus élevée, surtout de conception, mais aussi de réalisation. L'EPR est un échec industriel reconnu dans le monde du nucléaire, sauf chez Areva. Cela signifie que les 58 réacteurs actuels de deuxième génération, qui ne sont pas équipés des nouveaux dispositifs de sécurité, présentent des risques importants reconnus, d'autant que les exploitants souhaitent prolonger leur durée de vie initiale, ce qui accroît encore les risques. Sur les déchets, l'illusion de les réutiliser comme combustible s'est révélée chimérique. Le MOX, nouveau combustible contenant du plutonium, n'a qu'une utilisation limitée et présente une dangerosité plus grande dans sa fabrication et son utilisation. Vous êtes toujours sur 92.2, contre histoire. Les projets de quatrième génération, censés augmenter la durée des réserves de combustible en utilisant la totalité de l'uranium, et donc plus seulement l'uranium fissile, et qui étaient envisagés pour les années 2040, tiennent plus du fantasme que de la réalité. Ils devaient s'appuyer sur la surgénération, avec entre autres Super Phénix, aujourd'hui en démantèlement et abandonné après avoir coûté plus de 6 milliards d'euros. Quant au projet ITER de fusion, censé permettre vers la fin du XXIe siècle une production quasi infinie d'énergie, il devrait coûter au bas mot 15 milliards pour ne jamais produire d'électricité, mais des déchets radioactifs. On verra ça bientôt. Je pense que vous avez fait le plein de cauchemars, donc je vais m'arrêter là. Mais je reviendrai à charge. En attendant, prenez soin de vous.
Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Vous savez bien que nombre de gens ne se reconnaissent plus dans la France et préfèrent s'enfuir au loin pour pouvoir y tenter leur chance. Votre république d'exclusion est une honte pour la nation, tout comme celle d'intégration qui va céder sous la pression. Vous n'avez point les armes qu'il faut pour pouvoir taire une conviction, ouvrant les vannes d'une folie que vous ne pourrez point contrôler. L'identité de tout un peuple ne peut s'écrire sur ce papier. Même plastifié, les droits de l'homme ne pourront plus être protégés. Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Madame la République française, qui répondra de ses doléances? Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. Justice, qu'en pense-t-elle puisqu'elle ne peut point s'exprimer? Elle s'exécute convenablement sous la pression de l'Élysée, mettant en cause l'un des fondements de la structure démocratique. On interfère dans les affaires quand ces dernières deviennent critiques, usant des procédés injustes, des républiques bananières, comme un joker sorti de sa manche que l'on appelle raison d'État. Mais quand l'État manque de raison, c'est la balance qui penche et on se cache derrière s'injuste comme une femme sous la burqa. Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Madame la République française, qui répondra de ses doléances? Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. Dans la chambre des députés, on appelle au dialogue de sourds, et sa chante et sa caquette pour être le coq de la basse-cour. C'est le bordel dans cette piole, faudrait penser à faire le ménage. La dernière fois que cela fut fait devait dater du Moyen-Âge. Chacun y va de son coup de gueule, donnant ses lois incohérentes. Mais commencer par s'écouter serait peut-être la base d'une bonne entente. Messieurs les députés de France, souriez donc, vous êtes filmés. Vous êtes devenus les nouvelles stars de cette France réalité. Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Madame la République française, qui répondra de ses doléances? Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France.
Bonjour tout le monde.